Chapitre 5. Mon histoire. Les dernières fois que vous m'avez vu, j'étais un garçon de 13 ans. Aujourd'hui, vous voyez en moi un homme de 23 ans. L'histoire de ma vie, dans l'intervalle qui sépare ces deux âges, sera brièvement racontée. Pour commencer par mon père, j'ai à mentionner que la fin de sa carrière arriva précisément comme l'avait prédit Dame d'Hermodé. Nous n'étions pas encore depuis un an en Amérique que la ruine totale de sa spéculation foncière fut suivie par sa mort. La catastrophe fut complète. Sans le petit revenu assuré lors de son mariage à ma mère, nous nous serions trouvés tous les deux abandonnés sans ressources à la merci du monde. Nous nous étions faits, parmi les habitants affectueux et hospitaliers des États-Unis, quelques amis excellents qu'il nous peinait naturellement de quitter. Mais des raisons sérieuses nous poussaient à retourner dans notre patrie après la mort de mon père, et nous y revînmes en effet. Outre son frère, déjà mentionné dans les premières pages de mon récit, ma mère avait un autre parent sur lequel elle comptait principalement pour me lancer, le moment venu, dans une carrière professionnelle. Je me rappelle qu'un bruit courait dans la famille que M. Germaine avait été un prétendant malheureux à la main de ma mère lorsqu'ils étaient jeunes tous deux. Il était encore célibataire à l'époque où la mort, sans enfant, de son frère aîné le rendit maître d'une belle fortune. L'opulence n'amena aucune différence dans ses habitudes. C'était un vieillard solitaire, vivant isolé de ses autres parents, lorsque ma mère et moi nous revînmes en Angleterre. Si je parvenais seulement à plaire à M. Germaine, je pouvais, jusqu'à un certain point, au moins, considérer mon avenir comme assuré. C'était là l'une des considérations qui nous avait décidés à quitter l'Amérique. L'autre, qui m'intéressait spécialement, me ramenait vers les bords solitaires de Greenwater Broad. Je n'avais l'espoir de retrouver la trace de Marie qu'en interrogeant les paysans du voisinage de mon ancienne demeure. L'excellent régisseur avait été cordialement aimé et respecté dans sa petite sphère. Il paraissait au moins possible que quelques-uns de ses nombreux amis du Suffolk eussent découvert ses traces pendant l'année qui s'était écoulée depuis mon départ d'Angleterre. Dans mes rêves de Marie, et je rêvais d'elle constamment, le lac et ses bords boisés formaient un fond habituel au portrait imaginaire de ma compagne perdue. Par une superstition naturelle, je considérais les bords du lac comme un retour à la seule existence qui m'offrit une espérance de bonheur, mon existence avec Marie. Dès notre arrivée à Londres, je partis seul pour le Suffolk, à la prière de ma mère. À son âge, elle reculait naturellement devant la vue des lieux familiers, maintenant occupés par les étrangers qui avaient loué notre maison. Ah, jeune comme je l'étais, que mon cœur souffrit lorsque j'aperçus de nouveau les eaux vertes familières du lac. C'était le soir. Le premier objet qui frappa ma vue fut le bateau brillamment peinturé qui m'avait appartenu jadis et dans lequel Marie et moi nous avions navigué ensemble. Les possesseurs de notre maison naviguaient à notre place. Leurs éclats de rire glissaient joyeusement vers moi sur l'eau paisible. Leur pavillon flottait à la pointe du petit mât, à laquelle le pavillon de Marie ne s'était jamais agité sous l'aimable brise. Je détournai les yeux du bateau. Le regarder me faisait souffrir. Quelques pas en avant m'amenèrent à une éminence sur la rive et me découvrirent les arches brunes du Leurre sur le bord opposé. Là se trouvait la palissade derrière laquelle nous nous étions agenouillés pour assister à la prise des canards. Là se trouvait l'ouverture par laquelle Trim, le terrier, s'était montré pour éveiller la stupide curiosité des oiseaux aquatiques. Là se trouvait, aperçu par intervalles à travers les arbres, le sentier couvert et tournant par lequel, Marie et moi, nous avions gagné le cottage de Dermodé, le jour où la main cruelle de mon père nous avait arrachés l'un à l'autre. Que ma bonne mère avait été bien inspirée de reculer devant la vue de ces anciennes scènes chéries. Je tournais le dos au lac pour aller calmer mes pensées dans la solitude ombreuse des bois. Une heure de marche le long des bords sinueux du lac me ramena au cottage qui avait été jadis la demeure de Marie. La porte en fut ouverte par une femme qui m'était inconnue. Elle me pria poliment d'entrer dans la salle. J'avais déjà trop souffert. Je procédai sur le seuil à mon enquête. elle fut bientôt terminée. La femme était étrangère dans notre pays de Suffolk, et ni elle ni son mari n'avaient jamais entendu prononcer le nom de Dermodé. Je poursuivis mes investigations parmi les paysans en allant de cottage en cottage. Le crépuscule arriva, la lune se leva, les lumières commencèrent à disparaître des croisées et je continuai pourtant mon fatigant pèlerinage. Et partout où je pus entrer, la réponse à mes questions fut la même. Personne ne savait rien de Dermodé et tout le monde me demanda si je n'en avais pas eu des nouvelles moi-même. Je souffre encore aujourd'hui au souvenir du cruel et complet échec des efforts que je fis dans cette désastreuse soirée. Je passai la nuit dans un des cottages et je retournai le lendemain à Londres, brisé par le désappointement et m'inquiétant peu de ce que je ferais ou du lieu où j'irais après. Pourtant, nous n'étions pas absolument séparés. Comme l'avait annoncé Dame Dermodé, je voyais Marie en songe. Parfois, elle venait à moi avec le pavillon vert à la main et elle me répétait ses paroles d'adieu « N'oubliez pas Marie !» Parfois, elle me conduisait à notre coin, toujours présent à ma mémoire, de la salle du cottage, et, ouvrant le papier sur lequel sa grand-mère avait écrit pour nous des prières, nous nous mettions à prier et à chanter ensemble des hymnes, comme si le passé était revenu. Une fois, elle m'apparut les larmes dans les yeux et me dit « Il nous faut attendre, chérie, notre heure n'est pas encore arrivée !» Deux fois, je la vis me regarder comme quelqu'un troublé par l'inquiétude, et deux fois, je l'entendis me dire « Vivez patiemment, vivez innocemment, Georges, pour l'amour de moi !» Nous nous établîmes à Londres, où mon éducation fut confiée à un précepteur particulier. Nous habitions depuis peu notre nouvelle demeure, lorsque survint à notre position un changement inattendu. Au grand étonnement de ma mère, elle reçut, par lettre, une proposition de mariage de M. Germaine. « Je vous supplie de ne pas vous effrayer de ma proposition, écrivait le vieux gentleman. Vous ne pouvez avoir oublié que je vous ai aimé jadis, lorsque nous étions tous les deux jeunes et pauvres. Nul retour aux sentiments associés à cette époque n'est possible aujourd'hui. À mon âge, tout ce que je vous demande, c'est de devenir la compagne de mes dernières années, et de me permettre d'assurer l'avenir et le bonheur de votre fils avec un intérêt quasi paternel. Réfléchissez-y, ma chère, et dites-moi si vous consentez à occuper le fauteuil vide au coin du feu solitaire d'un vieillard. » Ma mère, presque aussi confuse, pauvre âme, que si elle fût redevenue jeune fille, rejeta toute la responsabilité d'une décision sur les épaules de son fils. Je ne fus pas long à prendre mon parti. Si elle répondait oui, elle acceptait la main d'un homme riche et honorable qui lui avait été dévoué toute sa vie et elle recouvrait le bien-être, le luxe, la prospérité et la position sociale que lui avait fait perdre la vie désordonnée de mon père. Ajoutez à cela que j'aimais M. Germaine et que M. Germaine m'aimait. Dans ces circonstances, pourquoi ma mère aurait-elle dit non ? Elle ne put répondre d'une manière satisfaisante à cette question lorsque je la lui posai. Et par une conséquence nécessaire, elle devint Madame Germaine en temps opportun. Il ne me reste qu'à ajouter que, jusqu'à la fin de sa vie, ma bonne mère se félicita d'avoir suivi, dans cette circonstance du moins, la vie de son fils. Les années s'écoulèrent et Marie et moi nous restâmes séparés, sauf dans mes rêves. Les années s'écoulèrent et l'époque périlleuse qui arrive dans la vie de chaque homme arriva dans la mienne. J'atteignis l'âge où la plus puissante des passions s'empare des sens et exerce également son empire sur l'esprit et le corps. J'avais, jusque-là, supporté passivement la ruine de mes premières et plus chères espérances. J'avais vécu patiemment et innocemment pour l'amour de Marie. Maintenant, ma patience m'abandonna. Mon innocence passa au nombre des choses perdues du passé. Mes journées, il est vrai, étaient toujours consacrées aux tâches que me donnait mon précepteur. Mais j'abandonnais, en secret, mes nuits à un dérèglement insouciant que, dans ma disposition d'esprit actuelle, je me rappelle avec terreur et dégoût. Je profanais le souvenir de Marie dans la société de femmes qui avait atteint les abîmes les plus profonds de la dégradation. Je me disais sacrilègement à moi-même, Je l'ai assez longtemps espéré, je l'ai assez longtemps attendu, il ne me reste plus qu'à jouir de ma jeunesse et à l'oublier. Dès l'instant où je tombais dans cette dégradation, je pensais quelquefois à Marie avec regret, le matin, alors que les réflexions pénitentes nous viennent de plus souvent, mais je cessais absolument de la voir dans mes songes. Nous nous trouvâmes alors séparés dans le sens le plus absolu du mot. L'âme pure de Marie ne pouvait plus communiquer avec la mienne, l'âme sans tache de Marie m'avait abandonnée. Il est inutile de dire que je ne pus cacher à ma mère le secret de ma dépravation. L'influence de la vue de son chagrin fut la première à me rappeler à la raison. Je me modérai, du moins jusqu'à un certain point, et je m'efforçai de revenir à un genre de vie plus correct. Bien que je l'eusse désappointé, M. Germaine était un homme trop juste pour désespérer de moi. Il me conseilla, comme moyen de réforme personnelle, de choisir une profession et de m'absorber dans des études plus assidues que celles que j'avais poursuivies jusqu'alors. Je fis la paix avec cet excellent ami et ce second père. Non seulement en suivant ses avis, mais en adoptant la profession qu'il avait exercée lui-même avant d'hériter de sa fortune, celle de médecin. M. Germaine avait été chirurgien, je résolus de l'être également. Étant entré dans ma nouvelle carrière à un âge plus avancé qu'il n'est d'usage, je puis dire qu'au moins je travaillais ferme. Je gagnais et sus conserver l'intérêt de mes professeurs. De notre côté, je ne saurais nier que, moralement parlant, ma réforme fut loin d'être complète. Je travaillais, mais égoïstement, amèrement et d'un cœur endurci. En religion et en morale, j'adoptais les principes d'un compagnon de mes études, un matérialiste et un homme usé du double de mon âge. Je ne croyais à rien qu'à ce que je pouvais voir, goûter ou toucher. Je perdis toutefois dans l'humanité. À l'exception de ma mère, je ne respectais aucune femme. Mes souvenirs de Marie s'effacèrent jusqu'à ne plus être guère qu'un anneau perdu de la chaîne qui me reliait au passé. Je conservais toujours le pavillon vert comme affaire d'habitude, mais je ne le portais plus sur moi et je le laissais oublié dans un tiroir de mon bureau. De temps à autre, il me revenait à l'esprit un doute salutaire sur la question de savoir si ma vie n'était pas absolument indigne de moi. Mais ce doute n'y séjournait pas longtemps. Méprisant les autres, la logique voulait que je poursuivisse jusqu'au bout mes amères conclusions et, conséquemment, que je me méprisasse moi-même. L'époque de ma majorité arriva. J'avais 21 ans et il ne me restait pas un vestige des illusions de ma jeunesse. Ni ma mère ni M. Germaine ne pouvaient se plaindre positivement de ma conduite, mais ils étaient tous les deux profondément inquiets sur mon compte. Après mûre délibération, mon beau-père décida que la seule chance de me guérir et de me relever était d'essayer du stimulant d'une existence parmi de nouveaux individus et de nouvelles scènes. À l'époque dont je parle, le gouvernement de la métropole avait résolu d'envoyer une expédition diplomatique spéciale à l'un des princes indigènes qui gouvernait une des provinces reculées de notre empire indien. Vu l'état agité de la province, l'expédition, à son arrivée dans l'Inde, devait être accompagnée jusqu'à la cour du prince par une escorte formée des employés militaires et civils de la couronne. Le chirurgien, désigné pour faire partie de l'expédition, était un vieil ami de M. Germaine et il manquait d'un aide sur la capacité duquel il put compter. Sur la recommandation de mon beau-père, ce poste me fut offert. Je l'acceptai sans hésitation. Le misérable orgueil de l'indifférence était le seul qui me resta. Pourvu que je poursuivisse ma profession, le lieu où je l'exercerais m'importait peu. Nous fûmes longs à amener ma mère, même à envisager la nouvelle perspective placée devant moi. Lorsqu'à la fin elle céda, elle le fit à contre-cœur. J'avoue que je la quittai les larmes aux yeux, les premières que j'eusse répandues depuis un an. Le récit de notre expédition appartient à l'histoire de l'Inde anglaise. Il ne saurait trouver place dans cette narration. En ce qui me touche personnellement, j'ai à constater que je me trouvais dans l'incapacité de remplir mes devoirs professionnels moins d'une semaine après que l'expédition fut arrivée à sa destination. Nous étions campés en dehors de la ville et nous fûmes attaqués pendant la nuit par des indigènes fanatiques. Leur attaque fut repoussée sans difficulté et avec des pertes légères de notre côté. J'étais parmi les blessés, ayant reçu un coup de javeline ou de lance pendant que je me rendais d'une tente dans une autre. Infligée par une arme européenne, ma blessure n'aurait eu aucune conséquence sérieuse. Mais le bout de la lance indienne était empoisonné. J'échappais au danger mortel du tétanos, mais par la suite d'une particularité quelconque que je ne saurais expliquer, de l'action du poison sur ma constitution, ma blessure se refusa obstinément à se cicatriser. Je fus réputé invalide et envoyé à Calcutta, où je reçus les meilleurs soins chirurgicaux. Ma blessure se ferma en apparence et puis se rouvrit de nouveau. Cela arriva deux fois et les médecins s'accordèrent pour déclarer que ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était de me renvoyer dans mon pays. Ils comptaient sur l'effet fortifiant d'un voyage sur mer et, à son défaut, sur la salutaire influence de mon air natal. On me déclara incurable sous le climat de l'Inde. Deux jours avant le départ du navire, une lettre de ma mère m'apporta une nouvelle saisissante. Mon avenir, si j'avais un avenir, avait pris un nouveau tour. M. Germain était mort subitement d'une maladie de cœur. Son testament, daté du jour où j'avais quitté l'Angleterre, léguait une pension viagère à ma mère et me laissait la totalité de sa fortune à la condition que je porterais son nom. J'acceptai cette condition, cela va sans dire, et je devins Georges Germaine. Trois mois après, ma mère et moi nous étions réunis. À part l'inquiétude que me causait encore ma blessure, j'étais en apparence le plus enviable des mortels. Je venais d'acquérir la position d'un riche gentleman, j'étais propriétaire d'un hôtel à Londres et d'une maison de campagne dans le Perthshire, et cependant, j'étais à 23 ans le plus malheureux des hommes. Et Marie ? Pendant les 10 années qui venaient de s'écouler, qu'était devenue Marie ? Vous connaissez mon histoire. Lisez les pages suivantes et vous connaîtrez la sienne.